Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages, notre invité l'humoriste Verino pour son spectacle Focus, mais pas seulement. Lisa-Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant sa célébrité. Et puis pour clore l'émission, Marc-Antoine Lebray. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour.
Content de vous retrouver. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu en ce studio. On s'en réjouit. Clément Le Saff, bonjour.
Bonjour.
Ravi aussi de vous retrouver, comme Bruno Donnet, que je salue. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici la cuisine médiatique. Et ce matin, vous avez choisi de vous intéresser à un sujet qui a beaucoup plu aux télévisions hier. On est dans le champ sémantique de la cuisine, la communication des géants du fast-food sur les réseaux sociaux.
Oui Philippe, gros appétit pour ce sujet-là hier à cause d'une information développée dès 13h dans le journal de France 2.
McDonald's soupçonné de payer des enfants pour faire de la pub cachée.
Eh oui, le champion du hamburger est accusé par l'UFC Que Choisir d'avoir mis au boulot des marmots sans nous le dire. Allons bon, l'information a également fait l'objet d'un reportage dans le journal de TF1.
Qui sont donc ces enfants? C'est l'enquête de ce 20h.
Et même C'est à vous sur France 5, c'est passionné pour le sujet.
L'UFC Que Choisir s'attaque au géant McDonald's. Oui.
Toutes les chaînes ont relayé les mêmes images.
Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai ouvert mon propre McDonald's et bientôt papa et Athéna vont venir commander au McDonald's.
McDonald's, celle de très jeunes enfants captés sur YouTube ou sur les réseaux sociaux et semblant faire de la retape pour le crack du Big Mac.
Filmé par ses parents, cet enfant de 10 ans fait semblant d'ouvrir un restaurant aux couleurs de l'enseigne McDonald's.
Mais ce qui m'a le plus intéressé dans cette séquence, Philippe, est arrivé presque par hasard. Figurez-vous que l'invité de C'est à vous hier était le PDG de Système U, un certain Dominique Schelcher. Craignant que le sujet l'intéresse assez peu, Anne-Elisabeth Lemoine lui a lancé pratiquement comme une boutade cette petite question-là.
Vous ne voudriez pas utiliser des influenceurs, des youtubeurs pour faire de la publicité cachée de Système U?
Mais la réponse du patron de la grande distribution fut très inattendue.
On a été parmi les premiers à intervenir sur TikTok, mais vous êtes obligé de le faire avec des influenceurs.
Car oui, il a expliqué que non seulement il avait lui aussi investi les réseaux sociaux, mais surtout que c'était un terrain de jeu nettement plus productif en termes de retombées sur certains publics que la sacro-sainte publicité à la télé.
Pour certaines cibles, c'est différent. Là, on visait plus de jeunes différemment, etc. Il y a eu un réel impact, on a été très satisfaits.
On a alors un peu mieux compris pourquoi les réseaux sociaux étaient devenus à ce point importants pour les marques. Alors vous allez me dire, Philippe, mais vous avez complètement perdu votre angle, mon petit bonhomme. Vous nous avez promis de nous parler des géants du fast-food. Pas si vite, Philippe, j'ai rien paumé du tout, car je vais maintenant vous dire un mot d'une pub qu'un nombre saisissant d'adeptes de Twitter a un peu de mal à digérer depuis qu'elle a été mise en ligne la semaine dernière. Et c'est une pub pour le concurrent de McDonald's, justement.
Burger King.
Burger King. Alors, si elle reste en travers de la gorge de nombreux internautes, c'est parce qu'elle se présente comme ceci. On y voit juste sous la mention « Encore un privilège réservé aux Parisiens », la photo d'un sac en papier de la marque. Il est rempli et scellé et entre deux logos, on peut y lire la mention suivante « Désolé pour le retard, c'était limité à 30 km/h ».
Aïe, aïe, aïe.
Tonnerre de protestations sur Twitter, où l'on fait remarquer pêle-mêle au roi du Whopper qu'il y a de nombreuses autres villes dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km/h, que rouler moins vite, ça sauve des vies, et surtout, surtout, que Burger King sous-traite son service de livraison à des boîtes qui payent leurs employés au lance-pierre et qui sont censés, greenwashing oblige, employer des livreurs qui circulent à vélo et qui sont donc assez peu concernés par les problèmes de limitation de vitesse, où l'on comprend, Philippe, que faire de la pub sur les réseaux sociaux, c'est pas de la tarte, et qu'avant de se payer la circulation parisienne, Burger King aurait probablement mieux fait de s'acheter une conduite irréprochable.
Merci beaucoup Bruno Donnet, c'est malin. Maintenant, on a faim. À demain, Bruno. Laure d'Autriche,
oui.
Vous n'avez pas faim encore? On voudrait connaître votre programme, votre indispensable de ce matin.
On va parler de Franz Liszt. Il y a le festival de musique classique des Listomania qui commence aujourd'hui à Châteauroux. Donc, je vais vous parler de Liszt, ce virtuose du 19e siècle et compositeur génial.
Clément Le Saff, votre programme du jour?
Figurez-vous, Philippe, qu'on n'est plus qu'à 72 jours de Noël.
Ouais.
Et donc, on va passer au crible la dernière console de Nintendo qui sera, j'en suis sûr, sous beaucoup de sapins.
Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Vous allez nous le dire. Dans un instant,
suspense.
L'humoriste Verino qui a 3 enfants, on va voir s'il va devoir acheter cette console pour ses enfants, mais d'abord avec lui on va parler de son spectacle Focus, mais d'abord musique, Juliette Armanet avec le premier morceau issu de son nouvel album à venir, Brûler le feu. On écoute Le dernier jour du disco sur Europe 1.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin.
Le dernier jour du disco, c'était Juliette Armanet sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Verino.
Bonjour Philippe.
Vous êtes humoriste, la presse vous avait qualifié d'un chiffre humoriste 2.0 quand vous montez sur scène. Plus de 900 représentations de votre précédent spectacle. Vous aviez déjà rempli l'Olympia en 2013. Vous êtes également youtubeur. Combien d'abonnés?
450 je crois à peu près aujourd'hui.
443 000 ce matin, pas 450, 443 000. Le gars est tellement habitué aux gros chiffres qu'il dit même plus le 1000 après. 443 000 ce matin à 6h45, 150 millions de vues cumulées. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre nouveau spectacle. Il s'intitule Focus, il est au Grand Point Virgule à Paris. Et parallèlement, c'est assez rare pour te signaler, en tournée dans toute la France, il y aura 62 dates jusqu'au 11 juin. Pourquoi Focus? Focus comme une mise au point?
Ouais, je crois qu'on est aujourd'hui la parole humoristique. C'est une des rares qui peut encore s'exprimer parce que tout va très vite dans les médias. Je trouve que l'objet spectacle où on a l'occasion de coincer les gens pendant une heure et donc de développer une vraie pensée nous permet justement d'attaquer les sujets les plus pointus et puis les plus immédiats et de rester focus, quoi. C'était ça l'objectif.
Vous dites que ce troisième spectacle est plus ambitieux que les précédents, c'est-à-dire
j'ai travaillé.
Vous faisiez comment avant? Vous faisiez des petites vanilles écrites sur un coin de table?
Non, sérieux. Avant t'écris et puis le spectacle naît en même temps que l'écriture, et puis je crois que j'étais plus jeune aussi, et puis je crois que j'avais plus de temps, et puis j'avais des envies que j'arrivais pas à capter, etc. Là aujourd'hui j'ai un peu plus d'expertise, évidemment ça va faire un peu plus plus de 15 ans que je fais ce métier, donc je commence à savoir écrire. Mon metteur en scène rigolerait parce qu'à chaque fois je commence à, mais en vrai c'est vrai, cette fois-ci j'ai pu accoucher d'un spectacle de bout en bout en ayant la dynamique d'écriture et l'envie et puis la concrétisation derrière, quoi.
Je vais vous faire un compliment, vous avez fait à ma connaissance la meilleure critique que je connaisse des complotistes qui pensent que le vaccin contre le Covid sert en réalité à installer des puces 5G dans le corps des patients à l'insu des vaccinés, le tout par une simple piqûre. On vous écoute.
Il y a des gens dans mon sang, ils ont eu trop de temps pour réfléchir, hein. Il y a des gens, tu dis, oula, toi, réfléchis un peu moins. C'est ton vieux pote que t'as pas vu depuis un an et demi, et quand tu le revois, te fais pas vacciner, ils ont mis la 5G dans les vaccins. Quoi? Mais enfin, Ludovic, mais que s'est-il passé? Tu sens, lui, il est parti dans les algorithmes de Facebook. Il s'est enfermé dans un truc, tout le monde est d'accord avec lui, il regarde que des vidéos de gens qui sont d'accord avec lui, du coup, il est persuadé que vraiment, il est en train de déjouer un complot de dingue. Mais juste réfléchis deux secondes, t'as déjà installé Internet à la maison? Est-ce que tu penses vraiment que les gens qui mettent 5 semaines à t'installer la fibre, ils sont capables de t'installer la 5G en une piqûre? Est-ce que t'as déjà vu la gueule du mec d'Orange quand il te branche la box et que ça marche? Même lui, il est là. Oh. Oh. Alors là...
Non mais c'est tellement vrai, on a tous vécu ça.
Bah déjà
Internet je pense qui que... marche et ça surprend l'installateur.
Alors maintenant, en plus, ce spectacle a évolué. Maintenant, il prend des selfies. Il hallucine que les lumières s'allument. Mais je trouve que c'est intéressant. C'est par rapport à ce que tu disais au début, ce que vous. C'est pas une critique du complotisme, c'est une critique de la pensée complotiste.
Bien
et
sûr.
En fait, c'est ça qui est génial, c'est de remettre en question non pas la personne, mais de remettre en question le schéma psychologique. Et effectivement, quand tu vois la bêtise de la pensée, tu te dis bon bah c'est forcément stupide, quoi.
Puisque vous parlez de schéma psychologique, je parlais d'un schéma journalistique, vous avez inventé l'unité de mesure qu'on choisit pour parler des hectares, là je parle d'environnement, pour parler des hectares de la forêt amazonienne qui partent en fumée.
Mais oui, mais j'hallucine, moi je me dis c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui tout soit calculé en fonction d'un terrain de foot, quoi. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a choqué quand on m'annonce que tout part en fumée, que tout brûle, on te donne le nombre de terrains de foot, je dis mais c'est là qu'on est. C'est même pas la forêt qui brûle qui est intéressant, c'est de se dire que le seul point de repère,
ça m'intéresse, parce que depuis le temps que je fais ce métier, ouais, moi je me suis toujours servi de ça. Quand vous dites à quelqu'un ça fait 4 hectares, il dit c'est quoi, c'est gros, c'est petit, on sait rien. Un terrain derrière chez soi, on sait pas c'est gros. 4 hectares, tu dis c'est 2 terrains de foot, tout le monde les voit. Pardon, c'est 8 terrains de foot, tout le monde les voit les terrains de foot.
C'est, ah bah tu vois, moi j'avais pas les hectares. Donc effectivement, hein.
Ouais.
Mais oui, c'est vrai, mais c'est à la fois ça devrait être l'inverse en fait, ce serait génial si on était bien éduqué, on saurait ce que c'est que les hectares et on n'a pas les moyens de le savoir.
On sait qu'il y a beaucoup de gens qui confondent encore les millions et les milliards. Et c'est un rapport de 1 à 1000.
C'est incroyable.
Et c'est ça qui est intéressant dans votre spectacle, c'est que soit on rit, soit on apprend des choses. Vous restez avec nous, vous parlez aussi de votre enfant, de ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Je vais juste vous dire une chose, il a failli mourir, Virino.
Ouais, il a avalé
une arête dans du poisson pané. Et peut-être que Lisa Marie Marquez va en parler. C'est le portrait pré-fame de notre invité. Ça arrive juste après une courte pause.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'humoriste et comédien Virino pour
absolument
son spectacle Focus. C'est lui qui dit absolument. On va mieux vous connaître, Virino, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Oui, bonjour Virino.
Bonjour.
Vous vous êtes forgé une image d'indomptable blagueur. Vous savez manier les sujets légers et plus sérieux en un claquement de doigts. Avec votre look de gendre idéal et vos vannes sans filtre, ça fait déjà plus de 15 ans que vous faites rire sur scène mais aussi sur Internet. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre.
Ah oui, j'aimerais bien savoir aussi.
Virino, vous êtes né et vous avez grandi à Nancy. Vous êtes l'aîné d'une famille de 3 enfants. Petit, vous êtes un enfant parfait. Vous ne vous faites jamais gronder, soit parce que vous ne faites pas de bêtises, ou alors, quand vous en faites, vous argumentez tellement que finalement, vos parents abandonnent la punition avant même de vous en avoir mis une.
Ah ouais, je suis un négociateur né, moi. Et je pense que c'est l'arme, de toute façon, du mec qui veut vraiment, vraiment s'amuser, réussir à être impeccable à côté, quoi. Même à l'école, faire marrer les profs, quoi. Choper le pouvoir.
Virino, depuis l'enfance, votre passion dans la vie, ce sont les Legos. À tel point que vous voulez devenir Legoteur, un métier que vous avez imaginé et qui consiste, selon vous, à inventer de nouveaux Legos.
C'est vrai.
Mais ça existe en même temps.
Mais oui, je sais.
Un, d'abord, elle sait tout.
Ouais.
Et deux, ça existe. C'est dingue comme métier.
Ouais, c'est vrai.
Durant votre enfance, vous êtes scout. Un jour, vous revenez d'une journée de scoutisme avec des raviolis dans les poches, tout simplement parce que vous n'aimez pas ça.
C'est-à-dire...
Il faut que j'appelle ma mère. C'est ma mère qui vous a donné ces informations.
On balance jamais nos sources ici, on est des journalistes.
Ouais, c'est vrai qu'on faisait à l'époque, en étant scout, tu sais, t'as tes boîtes de trucs pour pouvoir faire à manger dans la forêt.
Non, moi je sais pas, jamais été scout. Mais surtout, je vois pas le rapport avec les rapporter dans les.
Et c'est juste, en vérité, c'est pas que j'aimais pas les raviolis, c'est que je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais j'avais des raviolis dans mes poches qui sont passés à la machine, donc j'ai sorti des raviolis propres de mes poches. J'aurais dit que vraiment les raviolis propres, ça a une tête particulière. Hein.
Merino, à l'école, vous êtes un élève irréprochable et vous faites rire les profs. Mais au collège, il vous arrive une mésaventure. Vous vous faites hospitaliser parce qu'une arête de poisson se plante dans votre gorge. Vous racontez cet épisode sur scène, hein. Je ne veux pas spoiler, mais c'était du poisson pané.
Ouais, c'est ça. Et ça donne à peu près ça. Pendant 5 minutes.
Voilà. Et je dois dire, on voit le spectacle. C'est très visuel en même temps, parce qu'il y a la pause qu'on vous a fait prendre, que je ne recommande à personne.
Durant votre adolescence, vous jouez aux jeux vidéo comme Age of Empires. Vous achetez toutes les Game Boy et vous les avez encore aujourd'hui.
Ouais, je les ai encore aujourd'hui, c'est vrai.
Vous êtes aussi un sportif accompli. Vous pratiquez l'athlétisme, le saut en longueur. Verino, vous passez un bac scientifique que vous obtenez avec mention. Et puis vous partez en prépa pharmacie. Mais ça ne se passe pas très bien parce que l'administration de la fac décide de ne pas vous donner le classement individuel pendant l'année scolaire. Vous pensez 100e, mais ça vous démotive de ne pas connaître précisément votre place. Et vous finissez finalement 250e.
Bon, on est d'accord que ça ne se fait pas quand même. Les mecs, ils changent les règles en cours d'année. Je voudrais pas me révolter sur Europe 1 20 ans plus tard.
si, vous pouvez.
Mais la fac de pharmacie de Nancy. Ouais, c'est ça, ils te donnent un classement intermédiaire. Donc tu sais à peu près où t'es normalement. Là, je ne l'avais pas, mais je les remercie au final parce que jamais je serais humoriste. Je serais en train de vendre des trucs contre les hémorroïdes dans une pharmacie. Donc, merci.
Après cette année de pharmacie, vous entrez en fac de sport. Vous étudiez 2 ans. Et là encore, comme à votre habitude, vous vous arrangez toujours pour trouver un vice de procédure à toutes les situations qui vous sont défavorables. Par exemple, en STAPS, vous n'êtes pas très bon en natation. Alors, vous vous intéressez au barème de notation et vous vous rendez compte qu'il est décomposé en plusieurs sections, dont l'une et la projection du temps qu'on va faire à la nage. Donc vous prévoyez un temps très long, vous arrivez dernier, mais votre projection est bonne et ça vous donne quelques points.
Ça me donne même plus que quelques points, j'avais eu la moyenne, c'était scandaleux.
Dingue, c'est le traître dans Koh-Lanta.
Ah mais non, parce qu'encore une fois, les règles sont ce qu'elles sont. Quoi. Et quand les profs me sont tombés dessus, j'aurais dit les gars, c'est votre problème, c'est vous qui avez mal géré les notes. Je fais pardon, hein, mais quand il y a un vice, on le prouve.
Pendant vos études, vous êtes livreur chez SOS Pizza à Nancy et ça vous a appris une chose très importante. Il faut donner du pourboire au livreur.
Ouais, s'il vous plaît, franchement. Bah parce que c'est comme ça qu'on vit, c'est trop bien. Moi, ça m'a changé ma vie de couple.
Je pensais qu'il y avait une conséquence que vous crachiez dans
Absolument pas. Moi, j'ai toujours été très bien élevé. Mais par contre, effectivement, un petit pourboire, ça fait du bien, quoi.
Verino, après vos 2 années de STAPS pour devenir prof de sport, vous décidez finalement de partir à Paris pour devenir humoriste. Vous vous inscrivez au cours Florent, mais vous y restez 6 mois seulement. Et comme vous gardez 2 enfants, Inès et Pierre, pendant ces études, ils deviennent votre premier public pour les sketchs que vous écrivez. D'ailleurs, ils sont venus vous voir des années plus tard à l'Olympia.
C'est vrai. Je garde un super souvenir parce que c'est une période de ma vie où je gardais ces 2 enfants qui avaient 4 et 2 ans au début.
Ah, mais c'était pas les vôtres.
Non, c'était pas les miens. Mais ça m'avait fait tellement du bien que quelques années plus tard, j'avais dit à ma femme, c'est quoi, alors que je jouais tous les soirs sur scène, je lui ai dit, avant d'aller au spectacle, je vais aller garder des enfants, ça va me faire du bien. Et ma femme m'a dit, mais t'es teubé, on n'a qu'à en faire, en fait. C'est vrai que je n'avais pas pensé que ça pouvait être les miens, quoi.
Un an après votre arrivée à Paris, vous jouez pour la première fois votre tout premier spectacle, La vie à 5 ans. Nous sommes le 28 mars 2005 au Théâtre de la Loge. Il y a 30 personnes devant vous et le rêve devient réalité. Vous êtes encore Olivier Balestriero et vous devenez Verino. Mais vous vous êtes trompé en choisissant ce nom-là. Vous devriez vous appeler Severiano.
Ouais, j'ai pris ça parce que effectivement, Olivier Balestriero, ça ressemble au nom de famille de Balesteros, le fameux golfeur des années 90 que plus personne ne connaît.
Ouais.
Et donc moi, je croyais qu'il s'appelait Severino. Donc j'ai pris un petit bout de son prénom. Et ouais, je me suis rendu compte, mais il y a 3 ans, qu'il s'appelait Severiano. Quoi. Et je trouve ça tellement classe de rater son nom de scène. Mais mon Dieu, quoi.
Suivront des scènes ouvertes avant de vous installer au théâtre de 10h pour votre spectacle. D'ailleurs, la carte postale de ce spectacle est en vente sur eBay pour 5 euros.
C'est
pour info, je l'ai trouvée.
Ah, c'est pas vrai. Vous l'avez acheté?
Je l'ai pas acheté.
Non, c'est pour ça qu'elle est en vente. C'est que personne l'achète.
Verino, vous participez à l'émission On demande qu'à en rire sur France 2 au Festival du Rire de Montreux. Vous faites la première partie de Franck Dubosc et en 2015, vous vous lancez sur YouTube avec vos vidéos Dis donc Internet, une pastille que vous filmez sur scène, dos au public. La première vidéo est publiée le 2 janvier 2015. Vous commentez la rétrospective Facebook de l'année qui vient de se terminer.
Donc j'avais que trois photos. La première, c'était une photo du Nouvel An, il y a un an pile, tu vois, où bah évidemment j'ai la tête d'un mec du Nouvel An, quoi. C'est-à-dire, je m'étais dit je vais boire deux bières, donc j'en ai une dans chaque main, et il y en a huit à côté. Juste après, j'ai une photo en juin où je suis sur la plage et je me dis « Ah, génial, je vais pas mettre de crème. » Tu sais, l'ego des mecs bruns. L'ego des mecs, il faut « Ah, ça va, j'ai pas besoin. » Le lendemain, j'ai pris un bain de Biafine. Et la troisième photo, c'est ma cousine qui l'a postée. Elle est magique. J'ai une forme, j'ai un an et demi et je crois que je pèse le même poids que maintenant. Je vous jure, j'ai des seins. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu un enfant avec des seins. Et cet enfant, c'était moi.
C'est tellement drôle de réentendre ça.
C'est la toute première vidéo.
Et ouais, on voit bien que la musique est trop forte derrière.
Ouais. Oui.
Verino, avec vos vidéos, vous fédérez une communauté que vous ne cesserez plus jamais de faire rire, virtuellement et sur scène. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup.
Merci, Lisa-Marie.
Et ben, j'ai bien taffé, hein, tu vois.
Ouais.
Grâce à toi qui as bien taffé, j'ai vu que j'avais bien taffé pendant ces 15 dernières années.
On est bien d'accord. Ouais. La musique sera très très forte tout à l'heure et pourtant c'est de la musique classique. C'est notre première indispensable qui nous attend avec Laure d'Autriche. Elle va nous faire découvrir ou redécouvrir l'immense compositeur hongrois du 19e siècle, Franz Liszt. Merci beaucoup, Lisa-Marie Marquez. À demain.
À
Restez avec nous sur Europe. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Verino, l'humoriste, son spectacle s'appelle Focus, on va être focus, mais surtout avec vous, parce que vous sortez la sulfateuse, ça parle de tout et de tout le monde.
Allez hop, c'est parti, on sort la sulfateuse.
Vous parlez des végétariens, il y a un point Godwin. Alors vous dites que vous êtes végétarien désormais.
Ouais.
Et vous dites que chaque fois que vous l'annoncez à quelqu'un, il y a un type qui vous sort ce que vous appelez la parenthèse Adolphe, c'est quoi?
Bah c'est qu'Adolphe était végétarien. Adolf Hitler était végétarien. Et donc à partir du moment où tu annonces que tu es végétarien, il y a évidemment tous les anti-végétariens qui vont se précipiter pour te dire en fait, tu as le même truc qu'Adolphe. Et je trouve que c'est plutôt marrant parce que non, en plus Adolf Hitler n'était pas végétarien, il était intolérant à la viande.
C'est-à-dire expliquer?
C'est-à-dire qu'il est...
Ça le rendait malade. Péter. Oh. Vous racontez des horreurs sur votre famille, c'est vrai ou c'est pas vrai?
Tout est vrai, tout est absolument vrai dans le
spectacle. Non. Vous avez trois garçons, trois enfants, trois garçons, l'aîné qui louche.
Ouais.
Vous avez inventé son strabisme ou c'est vrai?
Et non,
dans ce cas-là,
c'est vrai.
On se dit, il vit un martyr en classe.
Non, pas du tout, parce qu'en fait, ce que je dis, c'est qu'il louche quand il n'a pas ses lunettes. C'est qu'il a un œil très très faible, donc le cerveau, il ne prend pas l'information. Mais quand il a ses lunettes, tout va bien. Donc en vrai, il y a même des copains avec qui il est venu, parce qu'il est venu voir le spectacle, évidemment. Et ses copains hallucinaient, ils ne savaient pas qu'il louchait.
Il a quel âge?
Et il a 10 ans, là, maintenant.
D'accord, vous allez voir quand il aura 13-14 ans. À mon avis, vous allez retirer ce sketch.
Je pense même à 11 ans, il va me péter la gueule. Hein. Il mesure déjà 1m60.
Vous écoutez de la musique classique?
Ouais.
Vous écoutez quoi?
Je suis très Metallica, Nirvana, tout ce qui est dans cette veine.
Mais avec des violons et des contrebasses.
Je suis assez
cordes.
Fan de Chopin, moi, en vrai.
C'est vrai, Chopin, c'est plutôt le piano, non?
Oui,
je me trompe lors d'autres
vidéos.
Absolument,
contrôle.
Ouais. Tout à fait. Ouais. Et d'accord. On y est aujourd'hui avec le piano.
On y est? Ça pouvait pas mieux tomber. Laure d'Autriche,
bonjour,
bienvenue à nouveau.
Merci.
Votre indispensable aujourd'hui, c'est le festival des Liszomania qui commence donc aujourd'hui 14 octobre et qui va se terminer le 20 octobre.
Oui.
20 ans que ce festival a été créé, qui met à l'honneur ce compositeur flamboyant 19e, Franz Liszt.
Eh oui.
Et alors?
Eh ben c'est ça, Franz Liszt, c'est vraiment, vous disiez, vous adorez le piano, eh bien c'est l'image même du piano, le virtuose par excellence, on est en plein milieu du 19e siècle. C'est un pianiste exceptionnel, Liszt, qui, lors de chacun de ses concerts, fait venir des foules immenses. Il dépasse toutes les bornes du concert classique à l'époque. Alors il joue avec tout le corps, il voulait que le piano explose. On est aussi dans une époque où les pianos évoluent beaucoup, le clavier s'agrandit. Et donc Liszt aussi bénéficie des nouveaux piano et en tant que compositeur, parce qu'il est pianiste mais aussi compositeur, il est le premier à faire sonner le piano comme un orchestre. On entend ici la grande sonate en si mineur de Liszt. Elle s'appelle comme ça, la sonate en si mineur, jouée par Martha Argerich. Alors,
Martha Argerich, déjà, c'est un immense personnage.
Immense, et ici, très belle interprétation. J'ai choisi celle-ci justement exprès. Alors, lorsqu'on écoute du Liszt, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas qu'un pianiste qui joue, mais plusieurs. Et voici ce qu'en disent les pianistes Nathanaël Gouin et Paul Lai, qui vont se produire cette année, dans quelques jours, au Festival des Liszomania à Châteauroux.
Il a développé cette technique de jeu où jamais en dureté, mais à la fois une largeur de son et de spectre sonore assez incroyable. Et à travers les techniques qu'il a pu développer, ce qui aurait nécessité 20-30 doigts avant, à 4 mains, à 8 mains, normalement à 2-3 pianistes, ça devenait possible, alors difficilement, mais à jouer tout seul.
Il arrive effectivement à faire sonner le piano comme un orchestre, d'une manière vraiment voilà, magistrale, puissante, quoi.
Et ici, c'est la Mephisto Waltz, l'une des Mephisto Waltz de Liszt, jouée par un autre grand pianiste, Evgeny Kissin.
Mais à son époque, j'ai regardé, il est mort en 1886, oui. À son époque, c'était vraiment une rockstar.
Exactement, rockstar totale, c'est-à-dire, vous parliez de Nirvana là tout à l'heure, c'est ça, il faut s'imaginer.
Il passait sur toutes les radios, en télé.
Non, mais il cassait pas les chambres d'hôtel.
Non, mais si vous voulez, il y avait des foules immenses qui venaient, c'était la pop star, un peu comme Paganini, le violoniste à son époque, ce sont les deux grandes premières pop star du monde classique, et c'est même lui qui a inventé le récital. La façon de mettre le piano de travers sur scène, comme on le trouve aujourd'hui, c'est Liszt. Il a donné énormément de concerts lorsqu'il était jeune aussi, tout seul avec son piano. Et puis encore une fois, ce côté orchestral, il analysait les symphonies de Beethoven, les opéras de Wagner, il s'inspirait de tout cela, et puis il essayait de retranscrire tout au piano, ce qui faisait aussi des œuvres impressionnantes, juste écrites pour le piano. Et puis il improvisait aussi beaucoup, c'est là le côté pop star, rockstar. Il y a des envolées dans sa musique qui traduisent ce côté improvisé. C'est ce que dit encore le pianiste de jazz, Paul Lai.
C'était un très très grand improvisateur également. Et on sent ça dans son écriture, dans son geste, quelque chose de très fluide avec des envolées qui étaient à mon avis improvisées dans un premier temps. Et ensuite forcément il le fixait, mais c'était quelqu'un je pense, un musicien, un compositeur d'une très grande intuition.
Alors quand vous écoutez Liszt, c'est à la fois une musique héroïque, parce qu'il avait ce côté héroïque, et humaniste. Quand il a eu 24 ans, il écrivait « La mission de l'art est une mission humanitaire ». Alors je dis ça parce qu'à la fin de sa vie, là on voit le côté flamboyant, mais à la fin de sa vie il va chercher quelque chose de plus épuré, il se tourne vers la vie religieuse, il devient l'abbé Liszt. En fait, il avait noué une amitié avec le pape Louis Pie IX et il a reçu les ordres mineurs. Et à ce moment-là, sa musique est globalement plus mystique. Hein, il écrit par exemple ça, cette prière aux anges gardiens. Pardon de parler sur ces quelques notes. Dans son testament, Liszt se demande s'il n'aurait pas dû donner toute sa vie à Dieu plutôt qu'à la musique. Et il y a cette anecdote, un prêtre lui avait dit « Des prêtres, il y en a beaucoup, des musiciens de votre envergure, il n'y en a presque aucun. » Alors voilà, ce festival de piano, les Listomania, dure jusqu'au 20 octobre, vous l'avez dit. Mercredi, vous entendrez plusieurs pianistes français renommés, Bertrand Chamaillou, Alexandre Kantorov, Nathanaël Gouin, Aurélien Pontier, qui ne joueront pas d'ailleurs que des œuvres de Liszt, mais aussi de toute cette période romantique, Schubert ou Saint-Saëns.
Et Chopin, c'est la même période ?
C'est la même période, absolument.
Tu vois, ça t'amène à une humilité totale. Quand tu vois des génies comme ça, c'est trop fort, quoi.
Ouais.
Vraiment. Hein.
Et encore, Chopin, il a fait 6 mois de pharma. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. On va parler de consoles, on va parler de jeux vidéo, Culture Média
ouais
continue. C'est Virino qui crie, c'est pas Clément Le Saffre. À tout de suite dans Culture Média.
11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de l'humoriste Verino, son nouveau spectacle s'appelle Focus et c'est peu dire qu'à l'instant, Verino est Focus. Lisa Marie l'a dit, pendant votre adolescence, vous jouiez aux jeux vidéo comme Age of Empires, vous achetiez toutes les Game Boy, vous les avez encore aujourd'hui. Et quand Clément Le Saffre est arrivé dans le studio avec non pas un jeu vidéo mais carrément une console de jeu, vous avez sauté de votre place pour aller voir la nouvelle
console.
T'as
vu mes yeux comme ils brillent encore ?
Mais
je suis
tellement.
Bonjour,
j'ai jamais
Clément.
Eu un tel public, je crois.
Jamais j'ai vu ça. Ils connaissaient même la date de sortie.
Le 8 octobre, elle est sortie. Hein.
Racontez-nous, de quoi parle-t-il ?
Bah oui, on va parler de la nouvelle console de Nintendo, puisque Noël approche et donc le géant japonais a dégainé sa nouvelle arme, la Switch OLED. Alors, nouvelle console, je m'enflamme quand même un petit peu. C'est un nouveau modèle de la Switch, sa console qui est sortie en 2017, moitié console portable, moitié console de salon. On peut jouer en la branchant sur sa télé ou bien sans fil, sous la couette, c'est bien pratique. La Switch, c'est un énorme carton pour Nintendo. Je rappelle quand même quelques chiffres. 5 millions de consoles vendues depuis 2017 en France, 90 millions dans le monde et des jeux qui trustent le top des ventes dans tous les pays.
Verino, vous avez une Switch déjà ou pas du tout?
J'en ai une et puis je suis fan des jeux, quoi, évidemment. Vu la qualité des Mario, c'est sublime.
Indémodable Mario.
Alors le nouveau modèle, qu'est-ce qui change?
Eh bien justement, j'ai apporté, vous l'avez dit, les deux consoles avec moi. Hop, on va tenter une petite figure de style pour la caméra.
Europe 1.fr, vous voyez
la
ça.
La Switch classique à gauche, la Switch OLED à droite, c'est le nouveau modèle. Grande. Et je vais la faire passer tout de suite à Verino qui trépigne d'impatience. Il y a Mario Kart, il y a Mario Kart qui est lancé, vous pouvez jouer.
Ah, je suis parti.
Donc,
mon pote,
on va les détailler un petit peu. Visuellement, comme ça, il n'y a pas de grande différence entre les deux. Elles font la même taille et c'est toujours le même principe. Hein. Une tablette avec l'écran de jeu et deux manettes qui se glissent hop, de chaque côté. La Switch OLED a juste une petite particularité. Cette fois, les deux manettes sont blanches. Avant, elles étaient bleues et rouges, comme ça, un peu fluo. Elles existent toujours encore en bleu et rouge, mais voilà, Nintendo a voulu essayer d'apporter une espèce d'élégance pour ce nouveau modèle. C'est pas plus mal. Mais la vraie différence entre les deux modèles, elle se situe sur l'écran. La tablette fait exactement la même taille, mais Nintendo a rogné sur les bords pour agrandir l'écran. Il passe de 6,2 à 7 pouces, soit 2 cm.
Ouais, visuellement, il paraissait plus grand,
voilà,
le nouveau.
Exactement. Sauf que ça fait la même taille, mais voilà, c'est juste l'écran qui a été hop, agrandi. On a rogné un petit peu. Voilà, il y a des bords noirs sur la Switch classique. On a rogné les bords, on a gagné 2 cm de plus en diagonale sur l'écran. Et l'écran lui-même n'est plus le même aussi. Il a changé, puisque avant, on avait une dalle LCD. Maintenant, on a un écran OLED, d'où le nom de Switch OLED.
Comme sur certaines télé, ça change quoi alors sur cette console?
Alors, L'OLED, c'est la dernière technologie d'écran, c'est la plus pointue, la plus technique. Il y en a, vous l'avez dit, sur les télés, c'est aussi les derniers écrans des iPhones qui sont équipés de cette technologie. Contrairement en fait à un écran classique, avec l'OLED, il n'y a pas besoin de rétroéclairage derrière. D'habitude, il y a une lumière qui éclaire l'écran. Là, il n'y en a pas. Chaque pixel avec l'OLED crée sa propre lumière et ça offre forcément des contrastes beaucoup plus précis, notamment pour les nuances de noir. L'écran OLED peut éteindre les pixels pour afficher un noir complet, alors que sur un écran classique, si vous voulez afficher du noir, et bien il faut juste mettre la luminosité au plus bas pour l'écran. Et de fait, il reste quand même un tout petit peu de lumière. Donc, quand même, sur cette Switch OLED, les jeux sont beaucoup plus beaux.
Je vous signale que Verino ne vous écoute à peine, puisqu'en fait, il est déjà en train de jouer. Il a détaché les petites télécommandes et il est à fond. Ça, c'est pour l'essieu de la console. Mais sous le capot, quelles améliorations s'il y en a?
C'est là que je vais être un peu négatif. C'est un peu le point noir de cette console. Il n'y en a pas vraiment d'amélioration. Le processeur est exactement le même que pour la Switch classique, donc elle n'est pas plus puissante. Idem pour l'autonomie, entre 5h et 9h en mode portable selon les jeux, c'est pas plus. Il y a quand même deux petits points positifs qu'on peut noter. La capacité de stockage est multipliée par 2, donc ça c'est déjà pas mal. Et Nintendo a ajouté un port Ethernet dans le dock qui relie la Switch à la télé. C'est là où on met la Switch quand on veut jouer en mode grand écran. C'est quand même une bonne nouvelle pour les adeptes du jeu en ligne, puisque avec un port Ethernet, un câble Ethernet, la connexion est beaucoup plus stable qu'avec du Wi-Fi.
Et alors maintenant, le verdict, votre verdict Clément, est-ce qu'il faut acheter cette Switch OLED?
Bon, je l'ai testée moi pendant quelques jours, elle a de bons arguments, hein, il faut le dire, notamment en mode portable, l'écran OLED fait vraiment la différence. Hein. Les couleurs
sont absolument d'accord.
Voilà, c'est validé par Verino. Ah ouais, les vraiment. Couleurs sont beaucoup plus éclatantes, ça rend les jeux hyper immersifs, et notamment la Nintendo,
non,
c'est des jeux Mario.
J'ai une carapace bleue.
Terrible, ben voilà. Et là, il l'a vu en haute définition, la carapace bleue, en plus, il est arrivé dessus. Faut dire, la Nintendo, c'est des jeux hyper colorés, hein, c'est les Mario, etc. Donc là, les couleurs, elles pètent à fond, c'est magnifique. Et l'écran agrandi offre quand même beaucoup plus de confort visuel. Hein. D'habitude, jouer en mode portable sur la Switch, ça devient un peu énervant à la longue. Là, on se lasse absolument pas. Les haut-parleurs ont été améliorés aussi, donc le son est plus immersif, c'est cool. Mais si vous n'avez pas de Switch et que vous en voulez une pour Noël, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vous conseille de l'acheter.
Alors,
moi, je vous conseille le modèle OLED directement. Hein. Il coûte plus cher, certes, 320 à 350 euros selon les magasins, contre 270 pour la Switch classique. C'est 50 à 80 euros de plus. Mais ça vaut vraiment le coup, hein, parce qu'avec cette console, jouer dans son lit avec un tel écran, c'est un bonheur. Et le bonheur...
Vous êtes arrivé où? Vous avez passé un niveau? Vous avez gagné? Vous êtes où?
Je viens de remporter la première course de la Peach Circuit.
Je vois qu'on a un champion en studio.
Le gars,
toi, c'est pas moi. Voilà. En revanche, deuxième problématique, si vous avez déjà une Switch, qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est son cas.
Je vois assez peu d'intérêt à craquer pour le nouveau modèle quand même. Ouais, vous n'allez pas gagner grand-chose et le prix d'une console est quand même assez élevé. 350 euros, c'est quand même pas rien, surtout si vous en avez déjà une qui marche bien. D'autant que tous les jeux Switch sont compatibles avec les deux modèles. Hein. Donc vous ne serez pas du tout laissé sur le carreau. Si vous avez des vieux jeux et que vous achetez la nouvelle, vous pouvez jouer. Si vous n'avez pas la nouvelle, vous pouvez jouer à tous les jeux, y compris ceux qui sortent.
On est à la fois déçus et contents, parce que moi je suis hyper content qu'il y ait une nouvelle Switch qui sorte et je suis très excité toujours quand il y a des nouveautés comme celle-ci. L'écran, il est vraiment hyper excitant parce que c'est très très beau, mais moi je joue beaucoup en télé, effectivement j'ai un poil de déception quoi.
Ouais.
Vous jouez à quel jeu?
Moi,
je suis un béotien qui vous parle. Super Mario, c'est pas des jeux pour les enfants?
Je suis un enfant. Premièrement.
Ce sont des jeux pour tout le monde.
Mais
attention,
c'est évidemment des jeux pour tout le monde qui ont un niveau de difficulté hyper adaptable et qui sont sublimes. C'est comme Pixar en fait. Ouais. Tu te dis c'est des dessins animés, mais non, c'est sur toutes les générations que ça touche. Par contre, s'il y a un jeu sur lequel il faut jouer, et je crois que ça devrait être obligatoire, c'est Zelda Breath of the Wild, qui est sublimissime. Quoi.
Il faut. Alors moi, je suis jamais arrivé au bout, parce que c'est interminable. Mais oui, il faut. C'est l'un des plus beaux jeux qui a été créé pour la Switch.
Il est tellement intelligent. C'est des œuvres d'art. C'est au-delà du jeu vidéo. C'est sublime.
Vous restez avec nous. Merci beaucoup Clément Lessa. Verino avec nous. On marque une pause et c'est la fin de Culture Média. La dernière ligne droite, à tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Verino, l'humoriste qui remonte sur scène, c'est son nouveau spectacle. Il s'appelle Focus, mais il n'y a pas que la scène dans la vie pour vous. Je l'ai dit, la presse vous qualifie parfois d'humoriste 2.0. Faites également des vidéos sur YouTube. Ça s'appelle Dis donc Internet. Racontez le principe.
Et bah, tous les vendredis soirs. Alors déjà, à la base, il faut savoir que j'aime écrire et que parfois, bah, il s'avère qu'on a plein de choses à écrire, plein de choses à dire. Et puis que c'est périssable dans le temps. Et puis est arrivé YouTube, où, dans lequel j'ai vu quelques collègues commencer à faire des choses. Je me suis dit, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir cette liberté de ton totale, quoi, où on raconte absolument ce qu'on veut.
Pardon, sur scène, vous avez aussi la liberté de ton.
Évidemment, mais pas dans les médias, en tout cas tel que je l'ai pratiqué jusqu'à maintenant, tu vois. Donc, ouais. Créer son propre média et sa propre chaîne sur Internet m'intéressait. Et j'ai trouvé ce concept-là où, effectivement, je me mets le vendredi soir après le spectacle. J'écris un 10 minutes de stand-up que je tourne en face caméra. Donc pour avoir le regard
vous êtes
caméra.
Sur la scène, je vais essayer d'expliquer. Ouais, vous êtes sur la scène du spectacle, on vous voit de face et on voit aussi le public de face qui est dans votre dos, qui fait la claque, mais qui est dans votre dos, donc il vous voit de dos. Mais nous, on voit tout le monde
pas
de face.
Alors il ne me voit pas de dos puisque j'ai un écran géant qui rediffuse ce qui se passe dans la caméra.
Donc il vous voit de dos et de face.
Il me voit, ouais. Mais alors il y a les plus gourmands qui regardent mon cul, mais sinon les autres, ils regardent, ils regardent ce que je raconte.
Et vous racontez quoi? Vous savez quoi? On va plutôt entendre un extrait. C'était il y a quelques jours, il était question des Pandora Papers, je rappelle. C'est ce scandale de fraude fiscale mondiale massive qui porte sur 11 000 milliards de dollars.
Que dalle,
3 000 noms cités, dont quelques Français.
Bon, il est plus à sa près, le gars. Hein. Le gars, il peut dire, bon, foutu pour foutu, oui, ok. Pandora Papers, c'est moi, voilà. Sofitel, c'est moi aussi. Le petit Grégory, si vous voulez. Voilà. Tout ça, même Balkany, il était à deux doigts. Balkany, il était là-bas. Ah, ok, j'ai fraudé. Non, pas là. Ah bon? Vous êtes sûr? Vous voulez pas vérifier sur la liste quand même? Balkany? Balkany, E-N-C-U-E, non?
Et je l'ai pas dit avant pour qu'on comprenne bien, là vous parliez de DSK.
Je parlais de DSK au début, ouais.
Voilà. Vous dites que vous voulez pas être un chroniqueur d'actualité, mais ça c'est de la chronique d'actualité.
Eh bah ouais, je sais. C'est entre ce que je veux faire et ce que j'arrive à faire, il y a toujours un monde.
Ouais.
Donc en fait j'ai décidé d'arrêter de vouloir ou de ne pas vouloir être. Et du coup je fais des trucs et je vois ce que je deviens, quoi.
Vous étiez venu nous voir en septembre 2019, vous aviez lancé votre propre site internet payant comme pour la VOD. On s'abonne, on regarde tout ce qu'on veut, ça s'appelait, j'adore le titre, ça s'appelait VOD, Verino On Demand. Vous l'avez arrêté au bout d'un an et demi, pour quelle raison?
Parce qu'on a des accords financiers avec d'autres personnes qui vont vouloir le récupérer.
Ah.
Ouais.
Donc il va renaître de ses propres
centres. Je trouve cette réaction était géniale. Ouais. Je laisse un truc traîner.
Non, en fait, il va
être accessible autrement et d'une autre manière. Et donc il a fallu arrêter le site. Ouais.
Petit détail technique pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie d'aller vous voir physiquement. Le dossier de presse annonce que vous êtes au Grand Point Virgule jusqu'au 31 décembre, mais également en tournée jusqu'au 11 juin 2022. Vous faites les deux en même temps.
Je fais les deux en même temps parce qu'il y a eu toutes les dates de report qui, évidemment, un an et demi de pandémie, on a beaucoup de dates qui ont été reportées. Et donc là, c'était un petit peu physique ces derniers mois. Ouais. Je précise d'ailleurs, on était du jeudi au samedi au Grand Point Virgule, on a rajouté les mercredis maintenant.
Formidable.
Vous êtes les premiers à le savoir. C'est une information incroyable que je vous donne.
Mais vraiment, et en plus, il est 10h54.
Mon Dieu.
Mais oui, 10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Comme chaque jour, des stars sont là pour notre invité. Aujourd'hui, Verino, celui qui vous a aidé à vous faire connaître, il est là, il est avec nous, c'est Laurent Ruquier.
Bonjour et bienvenue dans On Demande Qu'à en Rire.
Ah, l'angoisse.
Ah, ouais, bah oui.
Je veux plus
alors,
cette émission.
Le candidat du jour, c'est Verino. Alors, Verino, est-ce que vous êtes prêt à nous faire rire, Verino?
Absolument.
Merci, Verino. Jean-Benguigui, qu'est-ce que vous avez pensé du sketch de Verino?
C'est nul. C'est honteux. C'est honteux.
Ah. Jean a adoré donc. Et vous, Jean-Marie Bigard, vous avez aimé la prestation de Verino?
Bah écoute, je sais pas trop quoi penser de son passage au gars, hein? Attends, pas un paix, pas un rototo, même pas une couille qui dépasse la braguette de Verino. Tu vois, hey. Et le pire du pire, c'est que les gens rigolent quand même.
Merci Jean-Marie. On va regarder maintenant le sketch du prochain participant, c'est Olivier de Benoît.
Bonsoir. L'autre jour, ma femme m'a dit que Verino était plus drôle que moi. Et à ce moment-là, j'étais choqué. Je me suis dit, enfin, une femme qui a de l'humour. Verino, sache-le, pour qu'une femme soit à moitié dans ton lit, il faut la faire rire ou avoir une tronçonneuse.
C'est nul. C'est honteux.
Ah, deuxième coup de cœur pour Jean-Benguigui. C'est rare. C'est la fin de cette émission et je vous invite tous à aller voir le spectacle de Verino qui s'appelle Focus. Et attention à prononcer le S, car Focus, c'est le spectacle de Verino et Focus, c'est Kim Kardashian.
C'est nul, c'est nul. C'est honteux, c'est honteux.
Attendez, je crois qu'il y a un autre humoriste qui veut dire un mot.
Salut les yeuves, c'est Kev Adams. Non, c'est juste pour dire que Verino, il maîtrise pas mal les réseaux sociaux pour un daron. Si, si, c'est un daron. C'est veuche, on dirait un club de bridge. Il y a plus de blanc que de noir. Bim, vanne de ouf. 100 000 likes sur mon compte Insta. C'est bon, Philippe, tu vois ce que c'est Insta ? Une sorte de copain d'avant, mais où les filles ont plus de prothèses mammaires que de prothèses de hanche. Robin, en tout cas, Verino, bravo pour ton parcours. Non, parce qu'avec un dog de sport, t'aurais pu finir prof de PS et ton seul parcours, ça aurait été slalomé entre des plots et finir sur une roulade. Bam, 500 000 retweets, je suis en PLS, frérot.
Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray.
Ça faisait longtemps que je t'avais pas entendu, c'était tellement génial.
Ouais. Bah, merci Marc-Antoine. À demain.
Vous revenez quand vous voulez, on ne demande qu'à en revenir.
Nous, on revient. Le Ruquier qui revient. Nous, on revient demain à 9h pour Culture Média. On sera avec les journalistes Caroline Roux et Marie Laurent pour une soirée spéciale C'est dans l'air avec un doc inédit autour de Vladimir Poutine. Et puis le comédien et écrivain Bruno Solo pour son livre Les Visiteurs d'Histoire. C'est un livre d'histoire très particulier où il reçoit à table des gens morts et il raconte tout ça. Des personnages historiques évidemment. Juste après le flash, Julia Vignali et Mélanie Gomez. L'émission C'est bien fait pour vous. Le programme du jour.
Alors, on va parler de comment aider ses enfants ou ses petits-enfants financièrement. Voilà, donc si mes parents m'écoutent ou si mes grands-parents m'écoutent.
Ils circulent du micro.
Non, mais on va parler des abattements, les dons, comment il faut faire. On aurait une spécialiste, évidemment.
Ses enfants, je dirais également. Comment les aider.
Bon, et dans le dossier santé, un sujet un peu tabou, mais qui peut être très concernant, surtout depuis qu'on porte des masques, la mauvaise haleine. Voilà, déjà, comment savoir qu'on a mauvaise haleine? Il y a des petits trucs pour s'en rendre compte, parce qu'en général, c'est les autres qui vous le disent, mais vous pouvez le deviner tout seul. Et puis surtout, comment en finir avec ce problème? Parce que c'est ça qui compte le plus, quand même, si on veut avoir une vie sociale et tout ça.
Verino, on entend le sujet, il me dit, mais pourquoi tu m'as demandé de mettre un masque? Et là, voilà, vous avez la
réponse. Je suis en train de me dire,
merci d'avoir été avec nous. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain, 9h. Salut.